magazine des Nations Unies. Ce dimanche 8 mars, les femmes du monde entier sont à l'honneur. Les Nations Unies leur dédient cette journée pour jeter un regard sur la situation des femmes et de leurs droits. Le magazine des Nations Unies consacre une grande partie de ce numéro à l'événement. Toujours dans le cadre de la journée de la femme, nous recevrons une femme d'exception, plébiscitée plusieurs fois parmi les personnalités les plus influentes au monde pour sa détermination et son combat en faveur des droits des femmes. Elle nous parlera surtout de l'exploitation sexuelle dont sont victimes les femmes et les jeunes filles en RDC. Vous la découvrirez dans cette édition. Une autre femme s'invite au décryptage. Elle est experte en communication et plaidoyer à l'ONG International Save the Children. Pascaline Palama évoquera une expérience unique d'encadrement d'adolescents en matière de santé sexuelle et reproductive dans la capitale. Et puis, le gouvernement allemand accorde 50 millions d'euros aux petits exploitants agricoles du Nord et du Sud Kivu. Objectif, renforcer leur résilience en période post-conflit. Le PAM, la FAO et l'UNICEF mettront en œuvre des projets cibles avec ce financement.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de magazine des Nations Unies. Les femmes du monde sont à l'honneur aujourd'hui 8 mars, une journée que les Nations Unies leur dédient chaque année pour jeter un regard sur la situation de la femme et de ses droits. L'édition 2020 a pour thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Le magazine des Nations Unies revient sur l'historique, l'importance de cette journée et les progrès réalisés en matière des droits de la femme. Jean-Pierre Elali Koko.
La genèse de cette journée remonte à l'année 1995. Cette année-là, s'est tenue à Beijing, en Chine, la 4e conférence mondiale sur les femmes. Lors de cette grande rencontre internationale, les délégations des femmes venues du monde entier ont adopté à l'unanimité le programme d'action appelé Programme d'action de Beijing, programme considéré à ce jour comme la feuille de route la plus progressiste en matière d'autonomisation des femmes et des filles partout dans le monde. Cette année 2020, le thème retenu « Levez-vous pour les droits de la femme » coïncide avec la campagne plurigénérationnelle d'ONU Femmes qui marque le 25e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Beijing. C'est dire que 2020 sera une année charnière dans la promotion de l'égalité des sexes dans le monde, parce que la communauté internationale évaluera à ce moment-là les progrès réalisés en faveur des droits des femmes depuis l'adoption du programme d'action de Beijing. Elle marquera plusieurs autres temps forts du mouvement pour l'égalité des sexes. Les caps quinquennales dans la réalisation des objectifs de développement durable, le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, et le 10e anniversaire de la création d'ONU Femmes. Il faut dire aussi qu'en dépit de certains progrès, la communauté internationale s'accorde à reconnaître que la situation de la plupart des femmes et des filles dans le monde évolue extrêmement lentement. Aucun pays n'est en mesure, à ce jour, d'affirmer avoir atteint l'égalité des sexes. L'année 2020 constitue donc une occasion inespérée de susciter une action d'envergure mondiale pour parvenir à l'égalité des sexes et au respect des droits fondamentaux pour toutes les femmes et les filles.
En prélude de la célébration de cette journée en RDC, la ministre du Genre, Famille et Enfants a lancé le mercredi 5 février à Kinshasa un appel aux femmes, les invitant à se focaliser plus sur le thème « Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre les droits des femmes » qu'au port de Pagne. C'était justement lors de la cérémonie de la présentation du Pagne de mars de cette année. La ministre Béatrice Loméa s'est exprimée au micro de Grâce Hamzati.
C'est vrai, ça fait des décennies. À cause de cette pesanteur, comme la tradition, le retard que nous avons pris, les droits des femmes ne sont pas respectés au même titre que ceux des hommes. Mais après examen, après plusieurs années, nous avons réalisé que tant qu'on n'aura pas respecté les droits des femmes, et ces droits des femmes, c'est par exemple les droits à l'éducation, les droits à l'instruction. Lorsqu'on n'accepte pas l'éducation aux femmes, vous pensez que ces femmes-là, par quelle magie, peuvent accéder à des tâches sociales. Ce n'est pas possible. Donc il faut dire que c'est vrai, même si hier on considérait que la femme est bonne pour la cuisine et pour faire les enfants à la maison, nous avons autre chose en plus de ça. Il faut envoyer la fille et la femme à l'école. Il faut qu'elles s'instruisent. Puisque quand elles s'instruisent, il y a une valeur ajoutée pour la nation.
Autre actualité, 50 millions d'euros, c'est le fonds rendu disponible par l'Allemagne à titre d'appui d'un programme visant le renforcement de la résilience. 180 000 personnes vivant en zone rurale, essentiellement des exploitants agricoles du Nord et du Sud Kivu, vont profiter de ce programme dont la finalité est de réduire la pauvreté. Le programme sera mis en œuvre par la FAO, le PAM et l'UNICEF. Jean-Pierre Elali Koko nous en donne plus de détails.
C'est un programme de 4 ans, de 2020 à 2023. Il vise à apporter une aide à plus de 180 000 personnes vivant en zone rurale, dont la plupart sont des petits exploitants agricoles, à Walikale, dans le nord, Kivu, et à Mwenga et Walungu, au sud Kivu. Selon les communiqués, les agriculteurs recevront une aide pour renforcer leur production agricole et leur gestion après récolte, et pour diversifier leurs activités productrices de revenus, améliorer la nutrition et les services sociaux de base. Cela contribuera à apporter la paix et la stabilité dans la région, indiquent les communiqués. Au nord et au sud Kivu, le tissu socio-économique a été détruit par des décennies de conflits, de déplacements et de chocs agricoles et climatiques qui se sont succédés. Pour rappel, le gouvernement allemand appuie les activités de renforcement de la résilience dans les provinces du Kivu depuis 2017 avec une contribution de 35 millions d'euros d'appui à un programme conjoint FAO-PAM qui devrait se clôturer en 2020. Le nouveau programme s'inspirera du premier.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Dans le cadre du mois de la femme, le magazine des Nations Unies reçoit une femme. Pascaline Palama est experte en communication et plaidoyer à Save the Children RDC. Cette ONG internationale a initié depuis 2018 un projet dénommé Bien Grandir Plus. Il s'agit en fait d'un programme sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et adolescentes expérimenté ici à Kinshasa et plus précisément dans le district de la Tchangou. Madame Pascaline Palama s'entretient avec Jean-Pierre Elali Koko.
Madame Pascaline Palama, bonjour.
Bonjour monsieur.
Votre ONG a initié un projet dénommé Bien Grandir Plus. Alors brièvement, parlez-nous de ce projet madame.
Alors le projet Bien Grandir Plus, c'est un projet implémenté dans la ville de Kinshasa, plus précisément dans le district de Tchango. C'est un projet qui vise la transformation de normes sociales et celles liées au genre. Ce projet intègre le paquet d'activités de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, la planification familiale et même les violences basées sur le genre. Ce projet a comme particularité de pouvoir s'adresser aux adolescents de 10 à 14 ans, la tranche d'âge qui depuis tout ce temps n'avait pas été prise en compte dans les interventions ciblant les adolescents et jeunes. Et vous voyez, c'est une tranche d'âge qui a plus de besoins, mais de l'autre côté, il n'y a pas de service adéquat pour répondre à tout le besoin que cette tranche d'âge présente. Et une autre particularité de ce projet, c'est que nous offrons le service de planification familiale ou de contraception aux adolescents de 15 à 19 ans.
C'est 8 mars, oui. C'est la journée internationale de la femme. C'est la femme qui est à l'honneur. Ouais. Est-ce que votre projet prend en compte ou promeut l'autonomisation des jeunes adolescents des 10 à 14 ans et des 18 à 19 ans? Est-ce qu'ils sont pris en compte en ce qui concerne leur autonomisation?
Oui, effectivement, notre projet a un ancrage réel avec l'autonomisation de jeunes filles dans le sens où nous fournissons aux adolescentes des informations pour leur donner des capacités pour leur renforcer leur capacité de décision, par exemple dans l'utilisation de méthodes contraceptives modernes, dans l'utilisation de préservatifs et même le pouvoir de décider s'ils doivent faire usage de la discipline positive ou non. Donc vraiment notre projet donne des informations nécessaires pour que les adolescents puissent être en mesure de pouvoir bien se comporter dans la vie, de pouvoir prendre des décisions importantes concernant leur vie sexuelle.
Et votre projet est basé essentiellement ici dans la capitale et vous l'avez dit à Tchangou justement. Comment assurez-vous l'encadrement de ces adolescents concrètement sur le terrain?
Ok, déjà il faut dire que nous intervenons en faveur des adolescents de deux catégories. Il y a les adolescents scolarisés et les adolescents non scolarisés. Avec les scolarisés, ce que nous faisons, c'est d'abord d'abord au niveau de l'école. Nous formons les enseignants, nous leur donnons la matière indispensable pour pouvoir dispenser le cours d'éducation à la vie familiale. Et non seulement ça, nous organisons les clubs scolaires. Au niveau de clubs scolaires, nous formons les leaders des clubs pour que eux puissent organiser les activités de sensibilisation au sein du club, les activités que nous appelons communément les causeries éducatives. Ils choisissent un thème précis dans les outils que nous avions mis à leur disposition. Ils traitent entre eux, ils échangent et après, ils prennent des engagements relatifs au changement de comportement. Il y a également les clubs communautaires. Les clubs communautaires sont organisés par les adolescents non et déscolarisés. Ce sont les adolescents qui ont rompu avec les études. Et donc, avec eux aussi, nous les encadrons avec des thématiques concernant la santé sexuelle. Ça peut être la puberté, les chaînes menstruelles, etc.
Oui, vous avez parlé des adolescents non scolarisés, mais je vois aussi les filles mères qui sont dans cette tranche d'âge des 18 à 19 ans. Il y a aussi des enfants de la rue. Comment vous faites pour cette catégorie d'enfants dans les prises en charge?
Il faut dire que la politique de Save the Children privilégie les enfants au sein de la famille. Voilà pourquoi nous, dans les cadres de notre projet, nous avons identifié les enfants déscolarisés mais qui vivent au sein de famille.
Vous associez les enseignants dans le travail que vous faites, mais vous associez aussi les parents. Pourquoi?
Oui, voilà, parce que nous estimons que ces deux acteurs, ils sont les contacts directs des adolescents. Et nous pensons que si nous leur fournissons des informations de meilleure qualité, ils peuvent facilement influencer le comportement des adolescents. Voilà pourquoi nous les avons associés. C'est suivant le modèle socio-écologique que nous avions mis en place et qui inspire tout notre programme, tout notre modèle qu'on appelle Bien Grandir.
Ce projet a été lancé il y a exactement 3 ans. Si on vous demandait de faire un petit bilan de ce projet, qu'est-ce que vous diriez?
Je dirais que le projet est sur la bonne voie parce que les premières années ont été consacrées à poser les bases. Nous avions organisé des formations, des enseignants, des leaders communautaires, des récopés et même la formation des récopés sur comment mener les sessions vidéo. Et maintenant, là, nous sommes vraiment dans la mise en œuvre. Nous sommes en train d'assurer le suivi. Et donc, je peux vous assurer que les quelques informations que nous avions mises à la disposition des adolescents les ont assimilées. Et même si vous parlez avec certains parents, on comprend qu'il y a quand même un début de changement de comportement qui s'installe.
Votre projet cible combien d'enfants à peu près? Combien d'adolescents?
Voilà, nous avons 1950 adolescents non scolarisés et nous avons autour de 10 000 enfants adolescents scolarisés.
Toujours à Tiangou?
Toujours à Tiangou.
Alors, pour terminer, quelles sont vos perspectives?
Voilà, nos perspectives, c'est que nous avions mis en place un modèle qui est vraiment une première dans les interventions ciblant les adolescents. Nous espérons que ce modèle va pouvoir produire des résultats de manière à ce que le bailleur de fonds puisse s'intéresser à ce design pour que ce projet soit mis à l'échelle au niveau d'autres provinces, au niveau d'autres zones de santé, même ici à Kinshasa.
Et vous parlez des bailleurs. Qui finance finalement votre projet?
Le projet Bien Grandir Plus, implémenté par Save the Children et financé par les Affaires mondiales Canada.
Madame Pascaline Palama, je vous remercie.
Je vous remercie aussi.
Dans la province du Tanganyika, le mandat de la MONUSCO a été jeudi au menu d'une séance de sensibilisation organisée par la police des Nations Unies UNPOL à l'université de Kalemie. La séance a attiré l'attention d'environ 300 étudiants sur les principales activités opérationnelles de renforcement des capacités et d'appui technique scientifique que l'UNPOL mène en faveur de la police nationale afin d'assurer la protection des populations civiles dans la région. De Kalemie, rendons-nous à Lubumbashi où des manifestations marquant le mois de la femme ont débuté. Jeudi dernier, les femmes issues de plusieurs mouvements associatifs, des entreprises et des partis politiques ont organisé une marche sur des nombreuses artères de la ville avec comme point de chute la grande place de la Poste. Un message de plaidoyer a été lu à l'intention de l'autorité provinciale. Cette dernière s'est engagée à accompagner les femmes dans leur lutte. Enfin, cette triste nouvelle pour la famille des Nations Unies, Javier Pérez de Cuellar, diplomate péruvien et secrétaire général de l'ONU entre 1982 et 1991, est mort mercredi soir à Lima, a annoncé son fils Francisco Pérez de Cuellar à la radio péruvienne RPP. Il avait 100 ans. La dépouille de l'ancien diplomate devrait recevoir les honneurs vendredi au siège du ministère péruvien des Affaires étrangères avant d'être inhumé au cimetière Presbítero Maestro de Lima. Que son âme repose en paix.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invitée ce dimanche est également une femme, figure bien connue dans la défense des droits des femmes, Julienne Lusenge. Elle est directrice exécutive du Fonds pour les femmes congolaises et présidente du conseil d'administration de l'ONG Solidarité Féminine pour la paix et le développement intégral, SOFEPADI. Le Monde a célébré le 4 mars dernier la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. Elle vient nous parler des différentes formes d'exploitation sexuelle et des moyens pour la combattre. Julienne Lusenge répond aux questions de Jean-Pierre Elali Koko.
Madame Julienne Lusenge, bonjour.
Bonjour.
Commençons par l'événement du jour. C'est dimanche, 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Le thème de cette année est « Levez-vous pour les droits de la femme ». Comment peut-on intégrer aujourd'hui ce mot d'ordre dans le contexte congolais des droits de la femme, madame?
Oui, vous savez, jusque-là, nous avons des textes, mais des textes qui ne sont pas mis en œuvre. Nous avons vraiment des bons textes, un cadre légal bien fourni pour protéger et promouvoir les droits des femmes, pour promouvoir la participation politique des femmes, même la participation des femmes dans les négociations de paix. Mais il se fait que ces textes ne sont pas respectés par les dirigeants. Jusqu'à aujourd'hui, on ne respecte pas la Constitution qui parle de la participation 50-50 de la parité dans la gestion du pays. Et donc, si la ministre a lancé ce thème, levez-vous, Congolaises et Congolais, pour promouvoir les droits, parce qu'elle s'est inspirée de thèmes internationaux pour contextualiser ça dans notre contexte. Mmh. Donc, ça signifie que vous devez vous lever pour défendre les droits de votre femme, de votre fille, et l'intérioriser dans votre ménage. Comment les femmes participent, tous les niveaux. Mmh. Nous devons tous nous prendre les mains dans la main pour avancer. Ça signifie que quand il y a des responsabilités à partager, il faudrait voir l'apport des femmes. Comment nous allons les intégrer aussi, décider à les mettre, parce qu'elles sont là, elles sont capables. Mais c'est seulement la volonté. Donc si aujourd'hui, les Congolais peuvent dire, ok, à partir de maintenant, on prend conscience que quand on nous demande dans un parti politique de donner deux candidats ou deux candidatures de ministres, nous devons mettre un homme et une femme. Vous savez, le Congo, c'est parmi les pays qui est dangereux pour une femme. Parce que vous savez tous tout ce qui se passe avec les violences sexuelles, violées. À l'est, même ici, à Kinshasa, il y a beaucoup de cas. Les gens ne veulent pas seulement ouvrir les yeux et accepter.
Revenons sur notre sujet du jour. Le 4 mars dernier, le monde a célébré la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. Que peut-on retenir de ces concepts d'exploitation sexuelle dans les contextes congolais?
Oui, l'exploitation sexuelle, c'est l'esclavage sexuel, c'est la traite d'enfants, des mineurs. C'est les violences faites aux femmes. Ça englobe beaucoup de choses. Vous savez, avec l'exploitation sexuelle, c'est souvent les mineurs qui sont attaqués. Les mineurs qui sont utilisés dans des cabarets, là où on vend des boissons ou dans des petits restaurants. Elles viennent chercher à travailler pour gagner un peu d'argent. Mais entre-temps, les détenteurs de si je peux appeler ça, de ces restaurants ou de ces bistrots, les utilisent aussi pour gagner un peu plus d'argent à les offrant aux hommes qui arrivent. C'est une exploitation parce que la fille, la petite, n'a pas conscience de ce qui se passe dans sa vie. Elle n'a pas l'autorité sur elle-même. Elle ne peut pas dire non. Elle vient là-bas et puis elle a besoin, on le trompe parfois. Souvent, les détenteurs de ces restaurants, de ces bistrots, disent aux parents, oui, je prends votre fille et je vais aller les faire étudier, je vais la nourrir, je vais acheter des beaux habits pour elle. Et ou disent seulement à la fille, voilà, nous, viens avec moi, tu vas manger bien chez moi, tu vas être bien. Et les filles viennent.
Notre organisation travaille beaucoup plus dans l'est du pays. Quels sont les genres d'exploitation sexuelle qu'on retrouve le plus fréquemment dans l'est?
C'est l'esclavage sexuel et la traite.
La traite, c'est comment?
La traite, c'est dans les carrés miniers. Les détenteurs des carrés miniers prennent les filles et les donnent à ces gens qui exploitent les minerais. Et donc, de force, c'est pas que les filles sont venues solliciter parce qu'elles ont peut-être accompagné leur maman dedans pour aller vendre des choses, ou elles sont venues elles-mêmes aussi chercher à vendre quelque chose. Et on les prenne. Il y a aussi les traites qui se passent ici, dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations. Les étrangers qui trompent les filles ici chez nous pour dire, voilà, on va aller vous trouvez du bon travail au Liban, je ne sais pas dans quel pays, à Dubaï, partout. Mmh. Et ils amènent les filles là-bas pour vraiment les vendre auprès des gens qui ont beaucoup d'argent. Un jour, je rentrais de Paris, arrivé à Addis Abeba, quand on devait décoller pour venir ici. Il y a une fille qui était à côté de moi, qui sanglotait, qui disait « Nzambe nangai na ebite ezangai kakande na koti na kati avion ». Et moi, j'ai dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle dit « Oui, ça fait longtemps que je suis ici, je suis exploitée. Et là, j'ai pu échapper. Je n'arrive pas à imaginer que c'est moi qui se retrouve dans cet avion pour retourner au Congo. » Il y a beaucoup de cas comme ça, des filles qui sont exploitées à travers l'Internet, Facebook et autres. On dit « Voilà, il y a du travail ou bien un mari ici qui va t'épouser et tout. Mmh. » On montre des gens qui ont beaucoup d'argent, on montre que la fille va être bien. Après, quand elle va là-bas, c'est pas ce qui se passe. On la prend maintenant comme esclave sexuelle. Le monsieur l'exploite. Ses amis et les gens viennent exploiter cette fille.
Les cas sont légion, madame.
Oui, Aubry, oui, oui. Même en Angola, il y a des gens qui sont exploités ici vers l'Angola. Il y a des filles qui vont là-bas. Mmh. Donc, il y a pas, les autorités ne veulent pas seulement ouvrir les yeux et faire leur travail. Les gens qui devraient les protéger ne les protègent pas.
Oui, vous êtes directrice exécutive du Fonds pour les femmes congolaises et présidente du conseil d'administration de l'ONG Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral. Et quelles sont les actions que votre ONG ou votre fonds mène en termes de prévention ou de sensibilisation pour qu'on puisse mettre fin à ces fléaux?
Oui, ce que nous faisons, c'est la sensibilisation, informer dans les écoles, faire des rencontres avec les jeunes pour leur parler des conséquences de cette exploitation sexuelle. Parce qu'il y a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles, il y a même le VIH/SIDA, il y a des grossesses précoces, des déformations. Les filles n'arrivent plus à grandir normalement. Et donc, nous, on passe dans les écoles pour informer, pour sensibiliser. Il y en a qui se dénoncent, qui arrivent et qui sont prises en charge, qui sont soignées. Nous sommes allés une fois même dans des Kijé, qu'on appelle, là où on garde les filles, les maisons de tolérance. On a eu à faire ressortir les filles de ces endroits-là.
Vous avez parlé des carrés miniers, notamment à l'Est. Est-ce que vous arrivez aussi à sensibiliser les exploitants qui font ces commerces illicites, commerces honteux de l'exploitation sexuelle?
Oui, les organisations qui sont dans les environs de ces milieux avec qui nous collaborons travaillent pour sensibiliser ces gens. Mais vous savez, ces gens, ils se comportent comme hors la loi. Donc, ils pensent qu'ils ne sont pas concernés par les lois parce qu'ils ont acheté ces carrés miniers. Donc, ils peuvent se comporter n'importe comment dans ces carrés miniers. Et souvent, ils sont protégés par les groupes armés. Et donc, beaucoup de parents et même des chefs coutumiers n'arrivent pas à dénoncer par peur des représailles. Donc, on laisse faire. Et entre-temps, ce sont ces filles qui vont devenir des femmes de demain, qui sont détruites avec ces actes ignobles. Si nous voulons avoir des bonnes femmes, des femmes qui vont construire notre nation demain, il faut que nous puissions vraiment nous atteler à éduquer, à construire, à protéger.
Et je précise ma question, quelle est l'action de votre ONG de ce côté-là?
Vous avez dit, il y a les sensibilisations, prise en charge de ces filles. Une fois sorties de là, on les soigne et on les réinsère. Celles qui veulent retourner à l'école, on les retourne à l'école. Celles qui disent qu'elles veulent faire des activités généralistes de revenus parce qu'elles ont déjà des enfants et tout, on leur donne aussi les moyens. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Il y a une fille qui a été prise comme ça de Goma jusqu'à Komanda. Komanda, c'est à 70 km de Bounia. Et là, la fille a été vendue même par la femme qui l'a amenée. La fille a été exploitée toute la nuit par le monsieur qui a donné le pagne et les 100 dollars. La fille avait déjà l'information par rapport aux violences faites aux femmes. Elle est allée chercher la police et heureusement, le commissaire de police qui était là à l'époque était aussi une personne qui a été formée par Sophie Badi. Il a accepté d'accompagner la fille. Il nous a appelé pour dire, voilà, il y a un cas ici, venez récupérer la fille. On a récupéré la fille, on l'a soignée. On a cherché les parents à Goma. On a demandé à la Monisco de nous donner l'avion pour ramener la fille à Goma. Avec les organisations de Goma qui nous ont accompagnés jusqu'à déposer la fille à côté de ses parents. Le garçon a été arrêté au parquet de Bounia et il a écopé de 15 ans de prison.
Madame, je voudrais vous poser une question tout à fait personnel. La plateforme politicale vous a classé parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde de l'année 2019. Les Nations Unies vous ont classé également parmi les 20 femmes les plus influentes dans le monde. L'Union africaine parmi les 20 femmes qui ont contribué à la mise en œuvre de la résolution 1325. Alors, que représente pour vous cette reconnaissance, cet honneur sur le plan national et sur le plan international?
Oui, c'est un encouragement. Toute personne qui fait du travail voudrait bien être que ce travail soit reconnu. Donc pour moi, c'est un encouragement, mais aussi c'est un devoir qui me dit d'aller de travailler encore plus pour les femmes, de m'engager encore plus pour faire avancer les droits des femmes. Et c'est ce que je ferai toute ma vie jusqu'à la dernière soupir.
À moins que vous ayez un dernier mot.
Le dernier mot, c'était pour dire, notre article, l'article de la Constitution, l'article 61, protège les enfants contre l'exploitation sexuelle. Et nous avons des procureurs. Moi, je voyais dans le temps des procureurs qui allaient chercher les infractions. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des maisons de tolérance, des TG qu'on appelle, des filles qui sont exploitées dans ces milieux. Mais on laisse faire, on regarde comme si on ne voyait pas. Pourquoi il ne faut pas leur travail pour aller retirer ces filles de ces milieux-là et condamner ces gens qui sont en train d'exploiter ces filles? Nous sommes en train de détruire notre pays. Les enfants doivent nous écouter. Quelle que soit la situation, nous devons nous imposer en tant que parents, éduquer nos enfants dans le sens de préparer leur avenir pour construire ce pays.
Oui, Madame Julienne Lusenge, je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean-Pierre.
Restons toujours dans le contexte de la journée de la femme. Akalemi, dans le Tanganyika, Expedi Mwambamubi nous fait découvrir une fille leader, toi, Anastasie Ngoy. Élève en sixième année des humanités, Anastasie rêve d'être femme leader et jouer le rôle de réconciliateur dans le conflit pygmé-bantou dans le Tanganyika. Suivez.
22 ans révolus, Anastasie Ngoy est une fille d'origine toi. Elle étudie en sixième année secondaire dans une école de Kalemi. Voici son parcours.
Moi, je suis née au village Sangomutange, 85 km de Kalemi. Jusqu'à 6e primaire, j'étais seulement au village. Je me suis venue à Kalemi pour commencer mes études à l'école secondaire jusqu'à ce moment que je suis en 6e des humanités. Malgré les souffrances, mon père avait fait des efforts pour que je puisse étudier. Il était en train de cultiver malgré le conflit là qui était venu. Mais jusqu'à cela, mon père s'efforce toujours à me payer les frais à l'école.
Alors Anastasie, avez-vous des propositions concrètes pour amener la paix entre les communautés Twa et Bantou?
Concernant ça, ce n'est pas difficile, monsieur le journaliste. C'est question seulement d'aller sensibiliser nos frères là-bas et aussi notre leadership féminin.
Si on vous appelle dans une réunion et on vous dit, voilà, vous en tant qu'une fille d'origine toi, est-ce que vous avez des demandes à faire?
Oui, ce qui est capital pour moi, c'est nous faire inscrire dans les écoles, aussi renforcer notre capacité de leader femme pour commencer à aller sur le terrain pour aller sensibiliser nos frères. Chez moi, là-bas, les gens ne veulent pas se combattre, mais c'est le conflit qui fait cela, maintenant.
Et est-ce que vous avez entendu parler du début encore du conflit dans le territoire de Nyunzu?
Récemment, j'étais là à Nyunzu, et j'étais sur le terrain là-bas, j'ai entendu quelques mésententes là-bas. Il y a l'insécurité, le conflit entre toi et Bantou, c'est le conflit que nous sommes en train d'étudier aussi. Jusqu'à ce moment-là, on n'a pas encore atteint l'objectif, connaître comment on va résoudre ce conflit. Nous voulons la paix dans notre province, cohabiter ensemble avec les autres, nos frères Bantous.
Femme leader, le rêve est en train de devenir une réalité pour cette fille d'origine toi. De quoi satisfaire Georges Mbouyou, coordonnateur de l'ONG La Voix des Minorités Indigènes?
Nous avons maintenant commencé à former, à essayer un peu de capacitarier les leaderships féminins. Voilà déjà l'exemple. La fille qui est à votre côté ici, et maintenant voilà, elle commence à s'en sortir, elle commence aussi à sortir.
Kalemi, Expedi Mwambamubi, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Nous revenons aujourd'hui sur le rôle de la MONUSCO dans l'acheminement de l'aide humanitaire des ONG humanitaires dans les hauts plateaux au sud Kivu. La question a été posée à la conférence des Nations Unies le mercredi 26 février. C'est Mathias Gilman, porte-parole intérimaire de la MONUSCO, qui répond.
Beromba Numérica TV. Bon, monsieur Kina vient de partir, je crois qu'il y avait une préoccupation au niveau du plateau du sud Kivu, dans les Minembwe et Mikenge. Selon certaines sources, des difficultés que éprouvent les ONG humanitaires pour acheminer leur matériel vers les déplacés. Et ils ont mis en cause la MONUSCO qui, selon leur dire, qui ne veut pas faciliter leur déplacement. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Nous sommes tous les jours approchés par des ONG, effectivement, pour transporter de l'assistance parfois dans des régions qui parfois, cette assistance ne cible qu'une communauté en tant que bénéficiaire potentiel. Nous n'avons pas les moyens d'acheminer l'assistance humanitaire nous-mêmes. Nous référons les ONG au Bureau de la coordination des affaires humanitaires et nous faisons tout ce qui est possible pour faciliter l'acheminement de l'assistance humanitaire, mais nous ne sommes pas en mesure, en l'occurrence dans le cas que vous avez mentionné, nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette demande. Il est en revanche complètement faux que nous ayons demandé de l'argent pour effectuer cette livraison d'assistance humanitaire. Nous ne demandons évidemment pas d'argent aux organisations non gouvernementales, mais il est important de comprendre qu'il y a un organisme de coordination des affaires humanitaires, OCHA, qui est en charge d'acheminer l'aide et que la MONUSCO ne peut pas tout faire.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Retenez les dates suivantes dans vos agendas. Le 12 mars, journée mondiale contre la censure sur Internet. Et le 15 mars, c'est la journée internationale des droits des consommateurs. Voilà, vous avez compris, c'est la fin du magazine des Nations Unies de ce dimanche 8 mars. Patrick Kiasongwa était à la technique et moi, Belinda Bosuma, je voulais présenter. Jean-Pierre Lali Koko était à la coordination, à la réalisation et au reportage. Toute l'équipe vous remercie de votre aimable attention. Bonne compagnie avec les programmes de Radio Capi.